Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Le verrou de Bercy empêche-t-il la lutte contre la fraude fiscale ? Bonjour Émilie Cariou.
Bonjour.
Vous êtes députée La République En Marche de la Meuse et vice-présidente de la Commission des Finances. Alors tout d'abord, peut-être nous rappeler en un mot en quoi consiste le verrou de Bercy ?
Alors le verrou de Bercy, c'est cette procédure qui limite en fait l'opportunité d'ouvrir des plaintes pour fraude fiscale au ministère du Budget. Donc à l'administration fiscale, c'est-à-dire que c'est une exception au pouvoir du procureur d'ouvrir les plaintes en toute opportunité.
Alors on se demande pourquoi, Émilie Cariou, le ministère de l'Économie et des Finances a le monopole de la décision sur le déclenchement d'une procédure pénale.
Alors c'est une procédure qui est très ancienne, hein, qui date des années 20, où s'agissant d'un préjudice qui portait essentiellement sur les recettes de l'État, à l'époque on a décidé de limiter finalement l'opportunité des poursuites pénales au ministère, qui est le principal, la victime du
principal préjudice
par la fraude fiscale. Et par la suite, dans les années 70, on a enrichi cette procédure d'un passage par une commission des infractions fiscales qui là, à l'époque, avait pour but d'empêcher que l'administration fiscale ne porte plainte massivement, notamment contre les PME, à une époque où l'administration fiscale apparaissait comme une administration toute puissante qui pouvait écraser du jour au lendemain les entreprises. Mmh. Alors aujourd'hui, on vit une situation qui s'est un peu inversée. Notamment, on a des très grandes entreprises multinationales qui arrivent à éluder l'impôt partout dans le monde. Et donc, le sentiment d'absence de lutte contre la fraude s'est installé petit à petit. Alors évidemment, l'affaire Cahuzac, dont on vient d'entendre parler, a réactivé le débat sur le verrou de Bercy. Et on a revu réapparaître ce débat à l'Assemblée nationale lors de la loi sur la transparence de la vie publique.
Eh ben oui, parce que alors l'affaire Cahuzac, quand même, il faut le souligner, c'était une situation ubuesque, puisque s'il n'avait pas démissionné, Jérôme Cahuzac aurait dû engager des poursuites contre Jérôme Cahuzac.
Oui, effectivement. Donc à l'époque, la question du verrou de Bercy est née. Il a été conservé en l'état. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, a validé la procédure en disant qu'elle n'empêchait pas le procureur par la suite d'ouvrir ou non les poursuites lorsqu'on lui transmet la plainte. Et donc on en est là. Et donc
Mais de manière pragmatique, Émilie Cariou, l'idée de conserver le verrou de Bercy, ça consiste à dire aux fraudeurs. On va faire une transaction, cette transaction va nous permettre de remplir les caisses rapidement parce qu'on va fixer une somme, on va se mettre d'accord sur une somme au lieu de passer beaucoup de temps devant les tribunaux avec des résultats aléatoires. C'est ça en fait l'intérêt du verrou de Bercy.
Alors pas du tout, c'est-à-dire que le contrôle fiscal, c'est pas une histoire de transaction. Le contrôle fiscal, c'est d'abord 50 000 contrôles fiscaux. Dans ces 50 000 contrôles fiscaux qui sont réalisés tous les ans en France, on en a 15 000. Qui sont assortis de pénalités de mauvaise foi et manœuvres frauduleuses, donc déjà des pénalités financières extrêmement lourdes. Et dans ces dossiers-là, on en a une certaine catégorie qui sont portées au pénal. C'est-à-dire que le pénal vient en surplus des pénalités administratives. C'est pas soit je fais une transaction, soit je marche à l'administration, soit je vais au pénal. Entre-temps, on a toute une palette de choses, déjà les redressements, les intérêts de retard. Non,
qui Émilie Cariou, je parle pas... Pardonnez-moi, je parle pas de ce gouvernement nécessairement, mais le canard enchaîné, puisque nous sommes mercredi, est régulièrement empli de transactions avec des fraudeurs fiscaux qui se font dans la discrétion d'un bureau de Bercy.
Alors bon, ça, la transaction sur un dossier délictueux, c'est interdit par la loi. Donc aujourd'hui, quand on a...
Je me souviens par exemple de Karl Lagerfeld, ça avait été largement commenté, c'était dans les pages.
La procédure de transaction, elle est encadrée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est prévue, on peut avoir une transaction sur le montant des pénalités qui sont assorties. Sachez que les pénalités aujourd'hui qu'on a en France, les pénalités financières, sont déjà, au regard de la Cour européenne des droits de l'homme, des pénalités à caractère pénal.
Voilà, bon. Alors, caractère pénal, ça veut dire important, c'est ça ?
Bah, ça veut dire qu'en fait, ce sont des pénalités qui marquent l'intentionnalité d'éluder l'impôt. Vous savez, on est dans un système déclaratif, donc on déclare ses impôts, et l'administration vient corriger, mais quand elle corrige, il y a une série de redressements qui sont des redressements très techniques d'interprétation de la loi qui ne relèvent pas de l'intentionnalité de frauder l'impôt.
Alors, c'est justement.
On a 15 000 dossiers qui relèvent de cette intentionnalité-là.
Alors c'est justement
ces dossiers-là qui sont problématiques.
Alors c'est justement à ce sujet que les ONG qui luttent contre la fraude fiscale sont en quelque sorte interrogatives, puisqu'elles disent qu'il n'y a qu'un quart des fraudeurs fiscaux qui sont aujourd'hui devant un juge. Est-ce que les 75 autres pourcents sont des gens qui n'ont que des problèmes d'interprétation du code des impôts ?
Alors, là, je vous l'ai dit, la proportion, c'est les 15 000 dossiers où il y a une intentionnalité par rapport aux 50 000 dossiers de contrôle fiscaux. Alors, aujourd'hui, l'administration fiscale, elle ne porte que dans certains cas le dossier au pénal. C'est-à-dire qu'il y a des pénalités financières, mais il n'y a pas de pénal. Donc, de toutes les manières, l'objectif de la mission a été de voir est-ce que la méthode de sélection des dossiers aujourd'hui était satisfaisante. On a deux problèmes à régler. On a d'une part les dossiers qui vont émaner de ces contrôles fiscaux-là, comment on va les sélectionner pour aller au pénal, et d'autre part, les dossiers que voit le procureur dans le cadre d'une enquête complètement annexe, par exemple, des faits de corruption, de trafic de stupéfiants, de proxénétisme, et où là, le procureur peut avoir envie de porter aussi la plainte sur la fraude fiscale parce que les enjeux sont importants. Et alors là, il faudra qu'on voit comment, justement, faciliter cette transmission-là et ce traitement au regard de la fraude fiscale. Donc, il y a déjà des choses qui se font, qui ont été donc clairement mises en évidence par la mission. Et l'idée des propositions qu'on va porter la semaine prochaine devant l'Assemblée nationale, c'est de réussir à faire mieux travailler ensemble l'institution judiciaire et l'administration fiscale. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes pratiques aujourd'hui qui existent, il faut absolument les généraliser, les mutualiser. Et pour ça, il y a un certain nombre de choses à faire évoluer.
Merci beaucoup, Émilie Dariou. Je rappelle que vous êtes députée de La République En Marche de la Meuse et vice-présidente de la Commission des Finances.